Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue à l'écoute de ce programme. Le jubilé des jeunes se poursuit. Nous sommes à son sixième et avant-dernier jour avec la grande veillée de prière dans la soirée sur le site universitaire de Tor Vergata à laquelle participera le pape Léon XIV. Déjà dans la matinée, le souverain pontife a reçu dans la salle Clémentine les artistes et animateurs de cette veillée. Le pape qui a aussi exprimé sa proximité spirituelle avec la famille de Pascal Rafik, jeune égyptienne décédée vendredi en plein jubilé des jeunes, avant de rencontrer les compagnons de voyage de la jeune femme. Nous écouterons à ce sujet Monseigneur Jean-Marie Tchami, évêque titulaire de Tarse et auxiliaire de l'église patriarcale d'Antioche, des Grecs Melkites pour l'Égypte, le Soudan et le Soudan du Sud qui accompagnent ces jeunes. Nous conclurons cette édition par la méditation sur les textes de dimanche, 18e dimanche du temps ordinaire, année liturgique C.
Radio Vatican, France et Afrique, Fabrice Baguendéquéré.
Ouvrons donc ce journal par les nouvelles du pape qui nous sont présentées dans notre page consacrée à la semaine du pape. Marie-Josée Moindou.
Commençons cette page avec l'intention de prière du pape pour le mois d'août 2025, axée sur la cohabitation pacifique. Le Saint-Père invite les fidèles à prier pour que les sociétés où la cohabitation est difficile ne succombent pas à la tentation de l'affrontement pour des motifs ethniques, politiques, religieux ou idéologiques. Passons aux activités du Saint-Père de la journée du samedi 2 août en plein jubilé de jeunes de l'année sainte de l'espérance, marquée par sa participation à la veillée jubilaire sur le site de Tor Vergata près de Rome. Les jeunes y passeront la nuit, se préparant à la messe de clôture du dimanche 3 août, présidée par le pape. Dans le cadre de ce jubilé, les interventions du pape, qui, à plusieurs reprises, a rencontré les jeunes venant de plusieurs parties du monde, ont eu pour objectif leur mobilisation pour un monde plus fraternel, pacifique et respectueux de la création, en plaçant la non-violence et l'espérance au cœur de leur engagement quotidien. Le Saint-Père a appelé ces jeunes à dépasser l'égoïsme, à s'appuyer sur le témoignage des personnes âgées, à cultiver la non-violence comme style de vie et à répandre la lumière du Christ par leur engagement missionnaire et fraternel. Le pape a également souligné l'importance de construire l'unité et la paix par le biais d'institutions et d'actions concrètes. Dans la matinée de samedi, le Saint-Père a rencontré les compagnons de voyage d'une jeune femme égyptienne, Pascal Rafik, décédée alors qu'elle voyageait avec son groupe pour participer au jubilé des jeunes. Léon XIV a dit sa proximité spirituelle avec la famille et présenté ses condoléances à toute la communauté dont elle était issue. Toujours samedi, et rencontrant cette fois des musiciens, des actrices, des acteurs et des présentateurs appelés à animer dans l'après-midi de samedi la rencontre précédant la veillée jubilaire, Léon XIV a affirmé que la musique, la danse et bien d'autres formes artistiques sont des dons du Seigneur pour nous tous et pour l'Église tout entière. À l'occasion du 50e anniversaire des accords d'Helsinki, le pape a exhorté jeudi 31 juillet la communauté internationale à renforcer la coopération et à faire de la diplomatie le moyen privilégié pour prévenir et résoudre les conflits. Toujours jeudi, le Saint-Père a confirmé l'avis de l'Assemblée plénière des cardinaux et évêques, membres du dicastère des causes des saints, annonçant le titre de docteur de l'Église universelle qui sera prochainement accordé au cardinal John Henry Newman, un des grands penseurs modernes du christianisme. Mercredi 30 juillet, au lendemain de l'ouverture du jubilé des jeunes, le pape Léon XIV a prononcé sa catéchèse lors de l'audience générale au terme d'une pause estivale passée dans la résidence pontificale à Castel Gandolfo. Le souverain pontife s'est spécialement tourné vers ceux qui se sentent incompris dans un monde hyperconnecté. Il les a encouragés à ne pas s'enfermer dans le silence, dans une réaction de fuite, mais à retrouver une communication honnête et prudente. Dans un télégramme signé par le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, rendu public lundi 28 juillet, le Saint-Père a exprimé sa profonde tristesse après l'attaque contre la paroisse bienheureuse à Noirite de Komanda en République démocratique du Congo, une tragédie qui invite davantage à œuvrer pour le développement humain intégral de la population meurtrie de cette région. À l'occasion du jubilé dédié aux missionnaires numériques, mardi 29 juillet, le pape a exhorté les participants à réparer les filets en annonçant la paix dans les lieux dramatiques de la guerre, ainsi que dans les cœurs vides de ceux qui ont perdu le sens de l'existence. Dans son message pour l'ouverture de la 28e Assemblée générale de la Fédération internationale des universités catholiques à Guadalajara, au Mexique, lundi 28 juillet, Léon XIV a invité ces dernières à devenir des itinéraires de l'Esprit vers Dieu.
Merci Marie-Josée. Et revenons donc à la rencontre du pape avec les compagnons de voyage de Pascal Rafik, la jeune fille égyptienne décédée vendredi en plein jubilé des jeunes. Monseigneur Jean-Marie Tchami, qui est évêque titulaire de Tarse et auxiliaire de l'église patriarcale d'Antioche des Grecs Melkites pour l'Égypte, le Soudan et le Soudan du Sud, nous décrit le contexte de sa mort et leur rencontre avec le pape.
Nous avions avec nous une jeune fille fatiguée. Subitement, elle a fait un arrêt cardiaque et elle est partie. La veille, elle disait, quand il y avait la première messe d'inauguration, ils n'ont pas pu rentrer. Elle a dit, est-ce que c'est moi la cause que vous n'avez pas pu rentrer parce que je vous retarde? Aujourd'hui, avec les jeunes, on est en train de parler. Elle est sûrement intervenue auprès du Seigneur qui a inspiré le Saint-Père de nous accueillir. Et c'était un signe que, au cœur de toute la foule qu'il y a, c'est ce que nous avons parlé ce matin. Le Saint-Père, représentant du Christ, comme Jésus a quitté les 99 pour un, il a laissé le monde entier pour regarder cette fille et consoler ses amis.
Parlant de la consolation, comment est-ce que les jeunes ont accueilli cette expérience triste et dans quel esprit ils se trouvent?
Aujourd'hui, nous sommes venus en pèlerin d'espérance. Ce qu'on peut dire, c'est que Pascal, elle est entrée dans l'espérance. Elle s'est confessée hier, elle était toute heureuse, elle a été comme une fleur, décorée l'autel céleste.
Elle est décédée aujourd'hui?
Non, hier, d'un arrêt cardiaque, subitement. Ça s'est produit dans le pullman en chemin. Le Seigneur permet des expériences difficiles, mais au cœur de ces expériences, il fait grandir ses enfants.
Cette expérience douloureuse est une occasion de croissance
spirituelle. Voilà, une croissance de foi. Et c'est ce que le Saint-Père aujourd'hui a parlé de cette importance-là. On peut dire c'est la providence qui a voulu. Le Saint-Père, dans son accueil, il a dit un mot d'espérance. Il nous a rappelé Marthe et Marie, que Jésus est la résurrection. Il a dit, je comprends votre souffrance, je comprends vos larmes. C'est normal, mais en même temps, Marie et Marthe ont réalisé que Jésus est la vie. C'est ça, c'était un moment d'espérance avec le Saint-Père.
Il y a beaucoup d'autres jeunes qui souhaitaient participer à cet événement, qui n'ont pas pu. Ils sont du Soudan, parce que c'est aussi votre couverture pastorale.
C'était très difficile pour mes enfants soudanais de venir. Je suis à l'Égypte, le Soudan, le Sud-Soudan, mais c'est déjà bien qu'on a pu venir. Et là, il y a tout un travail d'accompagnement psychospirituel avec l'équipe que j'ai. On essaie d'accompagner et je pense que le Seigneur fait des merveilles.
Pour ceux qui sont restés au Soudan?
Ils sont en Égypte, ils suivent à la télévision. Parce qu'ils ont fui le Soudan.
Des propos recueillis par Jean-Paul Kamba. Place à présent à l'actualité sociopolitique sur les continents. Le département d'État américain a annoncé que des représentants de la République démocratique du Congo et du Rwanda ont paraffé à Washington un texte de principe du cadre d'intégration économique régionale, une des exigences de l'accord de paix signé fin juin sous l'égide des États-Unis. Vendredi, des représentants de la République démocratique du Congo et du Rwanda ont paraffé le texte des principes du cadre d'intégration économique régionale, indique un communiqué du département d'État États américains évoquant une coordination conjointe dans des domaines tels que l'énergie, les infrastructures, l'exploitation minière, la gestion des parcs nationaux et le tourisme, ainsi que la santé publique, sans donner plus de détails. Des représentants congolais et rwandais ont aussi tenu jeudi à Washington la première réunion du comité conjoint de suivi de l'accord de paix. Washington s'est félicité de cette réunion comme une avancée significative pour la mise en œuvre de l'accord de paix. Moussa Mara, qui fut premier ministre du Mali pendant 8 mois en 2014-2015, a été inculpé vendredi pour atteinte à la crédibilité de l'État après une publication sur les réseaux sociaux concernant son soutien à des prisonniers politiques, a indiqué le parquet. Mara avait été précédemment convoqué pour un interrogatoire suite à une publication du 4 juillet sur son compte X dans laquelle il évoquait sa visite aux prisonniers et leur promettait la justice. Solidarité indéfectible avec les détenus d'opinion, avait-il écrit, disant les visiter régulièrement pour leur signifier sa solidarité. Et pour conclure cette édition, la méditation sur les textes du dimanche avec le père jésuite Rigobert Kyungu.
Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 18e dimanche ordinaire de l'année liturgique C. Ces lectures nous invitent à réfléchir sur notre existence ici sur terre et sur sa finalité. Dans la première lecture, l'auteur du livre de l'Ecclésiaste affirme que tout n'est que vanité et qu'un jour nous devrons laisser tous les biens que nous avons accumulés ici sur terre au prix de tant de peines, alors que d'autres personnes pourront en bénéficier après nous, sans s'être donné aucune peine. Saint Paul, dans la seconde lecture, va dans le même sens. Il nous invite à rechercher les réalités d'en haut et non celles de la terre. Pour lui, notre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. En effet, il considère que le Christ est vraiment tout et en tous. Il nous exhorte à revêtir l'homme nouveau dans le Christ, à nous débarrasser de l'homme ancien et à faire mourir en nous ce qui n'appartient qu'à la terre. Pour saint Paul, la soif de posséder les biens de la terre peut simplement être comparée à de l'idolâtrie. Cette thématique est approfondie dans le passage de l'Évangile, dans lequel Jésus répond à la demande de l'homme qui voulait l'impliquer dans une affaire d'héritage familial. Jésus lui montre que tout dépend de la manière de considérer la vie et la richesse. À ses yeux, la vie d'une personne, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'elle possède. Pour illustrer sa pensée, Jésus raconte la parabole d'un homme qui avait amassé des richesses et qui espérait en jouir pendant de longues années, oubliant qu'il ne lui appartenait pas de faire des projets sur sa vie, étant donné que celle-ci dépend de Dieu. La richesse avait ébloui et aveuglé cet homme, qui ne voyait que lui-même. Il n'avait de relation ni avec les autres, ni avec Dieu. Il limitait son existence à son petit cercle et à ses biens. Cet homme est un vrai malheureux, malgré l'abondance de ses biens, car ce n'est pas la richesse qui fait le bonheur de l'homme. Le bonheur se situe plutôt dans la capacité à aimer et à être aimé. Et l'amour s'expérimente dans de bonnes relations qu'on entretient avec les autres et avec Dieu, qui est la source du vrai bonheur. L'accumulation des richesses peut appauvrir humainement, surtout lorsqu'on s'enferme sur soi en se coupant des autres. Voilà ce qui manquait aussi à l'interlocuteur de Jésus. Il devait davantage soigner sa relation avec son frère au lieu de regarder d'abord l'héritage à acquérir. Une telle situation est bien réelle et actuelle. En effet, il n'est pas rare de voir des frères et sœurs d'une même famille se diviser et même devenir des ennemis à cause de l'héritage familial ou à cause d'une autre raison liée au bien de ce monde. En réalité, il y a une autre vie après la vie terrestre. Par conséquent, nous devrions veiller à ce que l'attachement aux biens de la terre ne devienne pas un obstacle pour hériter la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus nous invite à ne pas amasser des richesses pour nous-mêmes, mais plutôt à être riches en vue de Dieu. À la lumière de ces lectures, demandons au Seigneur de nous aider à nous ouvrir aux autres, surtout aux pauvres, en relativisant les biens de la terre et en restant attachés à la personne de Jésus qui vient nous donner la vie en abondance.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Et c'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.
Del corazón de América del Sur, tierra de valientes y raza guaraní. Hoy el pueblo grita jubiloso, está entre nosotros el apóstol del Señor.
Paraguay se alegra por tener esta gracia que nos trae tu visita que ilumina la nación. Nuestras vidas se llenan de esperanza, de sueños y anhelos de un país mejor. Niños, jóvenes y ancianos cantan llenos de gozo a una sola voz.
El Papa de los pobres, los ancianos y de los jóvenes que nos pides cuidar. Eres defensor de la vida, de un Dios que no se oculta a los que buscan la verdad.
Pastor con olor a oveja que vas a las periferias en busca de aquellos que necesitan más.
La juventud paraguaya, alegre y pujante, hoy sale a las calles a anunciar a Jesús. A ser el lío nos dijiste y aquí estamos, querido Papa Francisco, somos tu juventud. Y siendo protagonistas, avanzando sin temores, confiando en el Señor.
decir.